I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Est-il possible d'enregistrer un podcast en courant? C'est ce que je voudrais vérifier aujourd'hui. Allez, c'est parti, j'appuie sur le chrono. Bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel je vous parle de course à pied, lifestyle, sportif et du bonheur de courir. Et aujourd'hui, je vous propose une expérience qui est justement d'aller courir tout en enregistrant ce podcast. Alors ça peut sembler un petit peu farfelu, mais c'est justement pour illustrer un petit peu ce qu'est l'endurance fondamentale sur lequel j'ai beaucoup de questions. Donc je vais vous illustrer un petit peu le fait que ce soit possible ou pas de le faire et ce que ça engendre tout simplement sur la manière de parler, le fait que peut-être il y a des moments où il faut que je ralentisse parce que je me rends compte que je cours trop vite. Je pense que justement c'est un bon exercice parce qu'on a une tendance à courir trop vite. Dans cet épisode, je vous parlerai aussi des petites nouveautés de l'été, des petites actualités de l'été. Voilà, ce sera une manière de faire un petit point sur l'été. Et je vous parlerai aussi de la rentrée, mon premier dossard de rentrée, où est-ce qu'il va m'amener. Et vous verrez qu'il n'y a pas que la course à pied dans l'histoire. Et puis, je pourrais peut-être vous parler à la fin de quelques invités. En tout cas, j'ai quelques invités qui ont dit oui. Ce qui veut dire que la rentrée va se faire avec différents invités. Et je pense que ce sera plutôt intéressant. Mais avant de vous parler de tout ça, je voudrais d'abord remercier, bien entendu, les patrons, enfin ceux qui financent ce podcast, par le biais de Patreon. Alors vous savez le principe, vous connaissez le principe. Vous pouvez donner à partir d'un euro par épisode. Alors je dis bien un euro, parce que désormais Patreon va accepter l'euro. Donc je vais passer les comptes en euros, bien entendu ce sera plus simple. Donc ça sera à partir de 1 ou 2 euros par épisode. Vous pouvez avoir accès à tous les épisodes du podcast sans la publicité. Et le petit bonus du lundi, qui est un journal d'entraînement que j'enregistre, que j'ai déjà enregistré sur mon vélo d'appartement, que j'ai déjà enregistré en marchant, il me semble, mais que j'enregistre tous les lundis matin, dans lequel je fais un bilan de ma semaine, avec beaucoup plus de détails. Je vous donne mes vitesses, mes types d'entraînement, vous voyez, tout un tas de choses de ce type-là. Tout ça, bien entendu, c'est pourquoi j'ai un Patreon, pourquoi il y a de la pub, c'est pour avoir appel, pour financer, on va dire un changement de vie, notamment, qui est de dire que je cours après mon rêve d'enfant, réaliser mon rêve d'enfant, c'est-à-dire de voir comment je peux devenir, alors peut-être pas sportif professionnel comme je dis au départ, parce que c'est peut-être un petit peu compliqué, mais comment en tout cas, je peux concilier sport et vie pro, et réaliser ce rêve d'enfant, qui est de dire que je voudrais, finalement, passer ma journée plutôt les baskets aux pieds que sur une situation qu'on ne connaissait pas quand on est enfant, qui est d'aller travailler au bureau tous les jours. Et je vous l'avoue, pour moi, j'en ai bien soupé pendant quelques années. Si vous n'êtes pas suivi votre coach web, si vous ne savez pas quelles sont mes aventures par ailleurs, il faut juste imaginer qu'il y a quelques années, j'étais victime de harcèlement moral au boulot, que j'ai été arrêté pendant plusieurs mois. Mon médecin m'a dit vous ne retournerez jamais dans ce travail-là. Je suis devenu travailleur indépendant. Et puis toujours dans la création de contenu. Et petit à petit, c'est vrai que j'ai fait vraiment évoluer mon lifestyle, comme on dit, mon mode de vie. Et que de commencer à courir il y a quelques années le fait encore évoluer d'une manière différente, et d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer jusqu'à maintenant. Donc je vous remercie tous de participer avec vos moyens qui sont pas seulement financiers, mais c'est aussi votre support, vos messages, vos partages, notamment vos stories sur Instagram, vos dédicaces, vos questions que vous pouvez envoyer, les recommandations d'invités que vous pouvez me faire. Tout ça participe à construire kilomètre 42, bien entendu, mais à construire aussi un projet plus large autour du sport et autour de la course à pied. Et pour ça, je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle aussi que kilomètre 42 est aussi, on va dire, la passerelle vers un autre projet qui s'appelle le Hamsters Running Club, dont j'avais parlé dans kilomètre 42, dont l'idée m'était venue un jour, d'ailleurs, en enregistrant, il me semble que c'était un lundi matin, vous savez, ces fameux podcasts en marchant, justement, il me semble comme ça, où j'avais dit qu'en fait, un des points communs de tous ceux qui écoutent le podcast, et qui est un point commun avec moi, c'est que nous avons été des hamsters ou nous sommes des hamsters, au sens où nous courons dans des roues qui ne sont pas forcément celles qu'on avait imaginées, qui ne sont même pas souvent celles qu'on a imaginées. Je refais là le point avec ma petite histoire personnelle. Mais que cette roue, c'est pas forcément une roue dans laquelle on va se tuer au boulot, hein. Mais c'est aussi ne pas faire de sport, ne pas faire de mouvement, se sentir mal dans sa tête, dans sa peau, être trop gros, enfin tout un tas d'éléments de ce type là. Et donc le kilomètre 42 était né comme ça, comme un journal tout simplement de ma préparation pour mon premier marathon pour mes 42 ans, d'où le KM42, le point de passage, 42 ans, 42 km, le symbole. Et bien sûr, maintenant se poursuit pour des aventures, j'espère, pendant plusieurs années. Nous verrons où tout cela nous mène. Nous sommes, vous et moi, sur le chemin. Alors là, justement, en parlant du chemin, ça fait 6 minutes 30 que je cours. Je me rends compte que je suis parti un poil vite. Donc je vais ralentir un tout petit peu, histoire d'arriver jusqu'au bout. Mais mon cardio m'annonce une pulsation à 122. Oui. Donc on n'est pas si mal que ça. Je vous ai pas dit, il est 6h44 environ quand je lance l'enregistrement. Il va faire une magnifique journée, le soleil se lève. Je pars à la poursuite du lever de soleil. Voilà, à cette heure-là, il n'y a pas grand monde. Même si j'aperçois un petit peu plus loin quelques personnes qui promènent leurs chiens, 2-3 vélos. Là, vraiment, à cette heure-là, il n'y a pas grand monde. Et donc, pour revenir sur l'Amsterdam Running Club, je vous rappelle que je suis en train de monter, avec votre aide, une communauté dans laquelle on discute de tout ce qui fait justement cette vie de reprise du sport, de qu'est-ce que c'est de courir, de bouger, comment on s'équipe, comment on mange, tout un tas de questions de ce type-là. Donc on discute de tout ça, et au début je voulais monter ça, vous savez, le traditionnel groupe Facebook, que j'ai commencé à monter, et puis en fait, il est vrai que Facebook, alors là on va pas trop parler des algorithmes, etc., mais c'est vrai que c'est pas si simple que ça de gérer les choses, parce que Facebook fait un petit peu ce qu'il veut, il est chez lui, c'est normal. Et puis il y a sur Facebook et dans certains groupes tout un comportement que moi j'apprécie pas trop. Notamment dans des groupes où, quand vous dites que vous courez 3-4 km et que ça a été dur pour vous, ceux qui vont courir 20 km tous les matins se moquent un peu de vous. Et je trouve ça détestable. Et donc c'est pour ça que j'ai créé, et que nous sommes en train de créer, le Hamsters Running Club en dehors de Facebook. Donc c'est le même fonctionnement de Facebook, sauf qu'il faut installer une petite appli, qui s'appelle Mighty Networks, c'est le fournisseur du système. Moi je paye un abonnement tous les mois, d'où aussi Patreon, d'où aussi qu'il y aura des plans payants à l'intérieur de ce Mighty Networks, enfin du Hamsters Running Club. Je vous mets bien sûr les liens dans la description de cet épisode. Mais là on est à l'abri. Et pour reprendre l'exemple, le terme du Fight Club, tout ce qui se passe dans le Hamsters Running Club reste dans le Hamsters Running Club. Et le but du jeu, c'est vraiment de discuter à l'abri des regards malveillants, des critiques, de ceux qui pourraient avoir un œil alors qui n'est pas forcément malveillant, mais qui ne comprennent pas en fait notre logique. Et donc c'est pour ça que il est vraiment à l'abri. En fait, il n'y a que ceux qui écoutent le podcast, qui en connaissent son existence, ceux qui me suivent aussi sur Instagram, mais en général, vous n'êtes pas bien loin de faire les deux. Et donc, dans cette zone, on va dire, dans ce club, et ben dedans, on pose des questions, on échange nos conseils, nos astuces, je peux répondre à vos questions. Or, je vous donne 2-3 exemples. Hein. Quelqu'un qui a trouvé un plan d'entraînement sur Internet qui demande un avis. Des personnes qui se posent la question de comment gérer leur temps pour aller courir. On va avoir des questions sur nos objectifs, sur nos courses. On va avoir aussi des messages de motivation, d'encouragement. Je pose une question ou 2 par semaine pour animer un petit peu les choses. Le lundi, par exemple, je demande aussi quels sont les objectifs de la semaine, qui sont pas forcément que des objectifs de course. Il y a aussi des sections pour mettre des photos, enfin, vous voyez. Vraiment un espace de réseau social, vraiment pour parler de tout ça. Donc si ça vous dit, vous avez les liens dans les notes de description. Si vous tapez Hamsters Running Club, il se peut que vous tombiez sur la page d'accueil. Même si pour l'instant, elle n'est pas très référencée. Et que le but du jeu, c'est bien de garder cet espace-là à l'abri du tumulte d'internet et du tumulte de coureurs qui jugeraient que courir 3 ou 4 km c'est pas vraiment courir, alors que pour nous, et moi je me place dedans, le jour où j'ai couru mes 3 premiers kilomètres d'affilée, ce fut une grande victoire. Voilà, alors je continue à vérifier ma montre. 1,64 km, 11 minutes 20, tranquillement. Voilà, alors j'ai choisi du plat aujourd'hui. Je peux pas aller faire le fou non plus de partir dans les montées. Je vous rappelle quand même que l'endurance mentale, pour revenir sur le sujet, elle est propre à chacun de nous. Parce que si vous écoutez l'épisode avec un stuc, lui va vous dire qu'il court à 110 en endurance mentale, 110 plus 500 minutes, qui va à telle et telle vitesse. Mais en fait, elle est vraiment propre à chacun d'entre nous. Si vous débutez, moi je dis toujours, j'ai fait des épisodes sur le sujet, quand vous débutez, vous pouvez marcher, courir. D'abord marcher et courir un peu. Par exemple, vous pouvez marcher 45 secondes et courir 15 secondes. Alors, ça paraît rien comme ça, mais au début, si vous faites ça 10 ou 20 fois, ça vous fera 4 ou 5 minutes de course, ce qui paraît peu. Mais en augmentant la fraction de seconde, sans forcément augmenter le nombre de répétitions, vous allez augmenter votre temps de course petit à petit, et donc vous allez arriver à courir plus facilement. Mais après se pose la question de la vitesse, et c'est une question qu'on me pose souvent: quelle est la vitesse de l'endurance mentale, c'est quoi l'endurance fondamentale? Et donc la réponse que je peux vous apporter, c'est que l'endurance fondamentale, c'est la vitesse à laquelle vous pouvez courir en parlant. Alors bien entendu, vous allez trouver des gens qui vont trottiner tranquillement en discutant. Vous avez l'impression qu'ils marchent parce que ils ont une capacité à courir à certaines vitesses assez rapidement tout en parlant, parce que leur endurance mentale, leur capacité physique, hein, tout simplement, leur entraînement permet de le faire. Et puis vous allez vous dire, ben, j'ai l'impression qu'au début, même en marchant, je suis essoufflé, et que petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'avec l'entraînement, ben, ça va être de moins en moins le cas. Et vous êtes de plus en plus à l'aise. Et surtout, vous allez trouver cette vitesse à laquelle vous êtes confortable. Et il est important de trouver cette vitesse à laquelle vous êtes confortable. Parce qu'en fait, et c'est une question que j'ai eue l'autre jour, moi j'avais déjà dit, je considère qu'il faudrait courir, et on l'avait dit avec un stuc, environ 70 à 80% du temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une vitesse qui n'est pas fatigante. C'est une vitesse qui n'engendre pas une fatigue excessive, qui ne va pas puiser dans les réserves, qui est, j'ai fait une vidéo sur le sujet un petit peu, c'est un petit peu la vitesse, vous voyez, des chasseurs-cueilleurs, mais qui était capable de courir et de marcher très lentement pendant des heures, ce que les animaux ne sont pas capables de faire. Alors j'ai fait une vidéo YouTube qui en parle pendant 20 minutes de ça, donc je ne vais pas refaire le sujet complet, mais les chasseurs-cueilleurs, et encore quelques tribus qui fonctionnent un peu comme ça. Quand ils veulent chasser des animaux, ils ont deux solutions. Alors bien sûr, il y a les armes, etc. Mais si vous avez imaginé que vous devez chasser un lion, vous allez vous dire, je vais essayer de le viser avec mes armes. Ou alors, je vais essayer d'autres stratégies qui pourraient être, par exemple, de lui courir après ou de faire en sorte de lui courir après suffisamment longtemps pour qu'il se fatigue et de voir quel est le premier, celui qui se fatigue le premier. Et donc ensuite, une fois qu'il sera fatigué, il bougera moins. Et là, on pourra utiliser les armes, lui sauter dessus, il ne pourra pas se défendre ou quoi que ce soit. Et ce constat a été fait tout simplement du fait que, par exemple, des félins qui peuvent courir à 200 à l'heure, on pense au guépard, n'ont pas de système de refroidissement, comme la transpiration. Et donc, certes, ils peuvent courir pendant des heures, très vite, pendant un très laps de, un court laps de temps, mais ils ne peuvent pas courir des heures comme ça. Alors que l'homme, en fait, aurait deux vitesses, on va dire, grosso modo. La vitesse marche-course, pendant laquelle il peut courir assez longtemps, et la vitesse rapide, pendant laquelle il ne peut pas courir longtemps, mais qui lui permettait de fuir si vraiment il y avait un danger, et s'il n'avait pas d'arme pour se défendre, ou si son arme s'avère, dans tous les cas, inadéquate par rapport à la taille de la bestiole qu'il avait en face. Et donc, en fait, nous sommes faits comme ça, sur ce mode de fonctionnement-là. Donc, on va dire que l'endurance mentale est plutôt cette petite vitesse qui permet de tenir très longtemps, de ne pas puiser très longtemps dans les stocks, et qu'à côté de ça, vous avez une autre vitesse qui sera celle qui vous permet de fuir, on va dire. Et donc, par définition, si vous permet de fuir, bah, ça signifie aussi qu'elle est très élevée. Et donc, quand vous faites des exercices type 30-30, VMA courte, il faut vraiment la faire au maximum de ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire qu'en fait, comme on l'a dit, Kevin Stuck, on a une tendance à courir trop vite quand on court en footing, mais on a aussi une tendance à ne pas courir assez vite quand on veut courir en VMA, et notamment parce que si vous courez trop vite à l'échauffement avant une séance de VMA, vous êtes totalement grillé pour votre séance, vous n'avez pas de disponibilité, vous n'avez pas d'énergie, et vous n'êtes pas capable d'aller chercher dans les très hautes vitesses, ben, travailler plus vite que ce que vous pouvez courir, j'ai envie de dire théoriquement, amener votre cœur plus haut, amener votre corps plus loin, et donc finalement de créer l'adaptation nécessaire au progrès. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc pour arriver à faire ça, il faut courir doucement, prendre du foncier en faisant du kilométrage qui ne fatigue pas. Et donc l'endurance mentale là-dessus est idéale. Et puis à côté de ça, bien entendu, ce qu'il va falloir faire, c'est travailler, si vous voulez, mais même si vous voulez pas faire de la vitesse, hein, travailler la vitesse le 20% du temps. Et je parle, alors on pourrait parler, si on parle en kilométrique ou en temps, ou ouais, là-dessus c'est variable, chacun aura un petit peu notre méthode de pensée, mais toujours est-il que moi j'aime bien la règle de 80, hein. Et c'est par exemple quand vous faites une séance de VMA, vous pouvez même vous en rendre compte, vous ne allez peut-être pas faire 80-20 parce que vous allez faire un échauffement par exemple de 30 minutes, vous allez faire 20-25 minutes de vitesse entrecoupé. Alors la partie vitesse en plus, ça va être par exemple des 30-30, 20 fois 30 secondes à fond, 30 secondes lente. Donc quand vous regardez au final, ça vous fait 20 minutes d'exercice, mais il n'y a que 10 minutes de course rapide. On n'est pas sur 20 minutes à fond d'affilée, où là on serait plus dans une technique plutôt course de seuil, on serait plutôt dans l'entraînement pyramidal, qui est une autre variante qu'on fait aussi, c'est ce qu'on fait souvent en club, qui est de dire qu'on court en majorité en endurance mentale, on va faire des exercices de très haute vitesse pour gagner en vitesse, mais aussi faire des exercices dits au seuil, ou VMA longue pour s'entraîner à tenir certaines vitesses plus longtemps. Donc par exemple, ça peut être des 1000, des 2000. Sur de la prépa marathon, même on avait des blocs de 4 ou 5000 qui sont pas là en seuil, mais en annulant le marathon pour mémoriser la vitesse, mais qui au début peut être un peu troublant parce que vous n'avez pas l'habitude de courir à ces allures-là, qui sont pas des allures d'endurance fondamentales, puisque si vous êtes sur un plan prépa marathon, votre objectif, c'est de souvent c'est de faire un certain temps, et la vitesse de marathon, comme disait Johan Stuck, est quand même plus rapide que la vitesse endurance fondamentale. Donc l'endurance fondamentale, c'est cette fameuse vitesse qui vous permet de discuter tranquillement et de courir tranquillement et de faire de la distance ainsi. Et c'est pour ça, vous voyez, que l'exercice d'aujourd'hui est intéressant. Là, ça fait 20 minutes que je cours, ça fait 3 km. Donc c'est pas aujourd'hui que je battrai mon temps sur 5 km, parce qu'il faudrait déjà que je sois arrivé. Mais c'est pas ce que je travaille aujourd'hui. Ce que je travaille aujourd'hui, c'est la capacité à courir longtemps et doucement. Et quand j'ai cette capacité-là qui est bien, c'est ce que j'ai fait beaucoup sur le mois de juillet, hein, et bien ça permet ensuite, tout simplement, de travailler plus facilement à la vitesse, parce que vous avez la capacité de le tenir, de la résistance de le tenir, et la capacité de tenir aussi l'effort plus longtemps, de récupérer plus vite, etc. Et pour finir sur les 30-30, quand vous faites des sprints, vous allez très vite. Donc dans la partie 30 secondes, la partie de récup, elle devrait être aussi très lente pour vous permettre de bien récupérer et de pouvoir repartir toujours à une vitesse rapide. Et pas d'avoir des 30 secondes qui sont de plus en plus longs. C'est ce que j'ai mis très longtemps à comprendre. J'arrivais pas à comprendre. Et mental. Alors il y avait un problème en partie mentale, mais aussi un problème en partie physique. Et qui vient beaucoup. Alors pour ceux qui s'entraînent en club, vous l'avez peut-être constaté. Pour ceux qui vont faire du club, vous allez peut-être le découvrir. Si vous courez en groupe, vous savez ce que c'est. En tout cas, c'est que nous avons tous notre vitesse. Et que si vous laissez calquer la vitesse par quelqu'un qui court plus vite que vous, qui est meilleur que vous en termes de temps kilométrique dans une course par exemple, si vous lui laissez lui caler la vitesse, il risque de la caler sur lui. Et s'il la cale sur lui et que son vitesse d'échauffement c'est du 11 km/h, et que vous déjà à cette vitesse là vous n'êtes plus capable de parler, et ben en fait vous n'êtes plus en endurance mentale, et donc à ce moment là déjà vous entamez votre fatigue. Vous rentrez dans les zones de fatigue. Et donc, finalement, c'est un entraînement qui n'est pas très profitable si vous ne faites que ça. C'est là où on peut arriver dans de la fatigue excessive, surfatigue ou quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, c'était le point endurance fondamentale. Bien entendu, alors j'ai eu d'autres questions sur le sujet. La travailler, ça va vous amener à devoir courir et accepter de courir lentement. Alors, le fait de courir en marchant comme ça, justement, vous voyez, pour moi, c'est un bon rappel. Ça me dit tout de suite, attention, si tu as du mal à parler maintenant, c'est probablement que tu vas trop vite. Alors, ça peut être un exercice intéressant. Je vous dis pas qu'il faut faire du podcast forcément et le publier en courant, mais pourquoi pas. J'ai vu des gens l'autre jour, quand je courais, qui tenaient des discussions téléphoniques au téléphone, oui, avec leur casque, qui couraient en téléphonant. Alors, moi je suis pas très adepte du téléphone, enfin, de la conversation téléphonique, c'est pas dans mon caractère, et si je vais courir, c'est pas trop pour avoir la conversation téléphonique avec quelqu'un, mais si ça peut vous aider à trouver une vitesse lente, et arriver à parler, faire votre courir 20 minutes en discutant avec quelqu'un au téléphone, et être capable de le faire sans avoir de fatigue excessif, sans avoir l'impression que vous allez beaucoup trop vite, sans avoir besoin de vous arrêter, ben peut-être que c'est un bon moyen. L'autre moyen pourrait être de prendre, comme moi j'ai fait, votre enregistreur et d'enregistrer des idées. C'est ce que je fais là tout de suite. par exemple. Vous voyez, tranquillement, j'ai pris, alors moi j'ai pris un micro-cravate pour éviter qu'il y ait un mauvais vent, un pchut comme ça là qui serait désagréable. Mais vous pouvez prendre le casque de vos écouteurs. Si vous le gardez pour vous, vous pourriez très bien enregistrer ainsi vos pensées, vos textes. Par exemple, si certains d'entre vous sont tentés pour faire du blog ou écrire un livre, vous pourriez très bien vous dire une sortie d'endurance mentale égale un chapitre de mon livre ou une page de mon livre, et en courant je dicte mes idées à mon téléphone. Même si le son est pas bon ou quoi que ce soit, je récupérerai mes idées. Mais ça va vous aider aussi à la fois à voir ce que c'est cette fameuse vitesse si vous n'êtes pas habitué à courir à quelqu'un, ou si vous courez tout seul, et puis en même temps ça va vous aider dans vos projets créatifs. Et c'est là où je fais la jonction entre mes deux podcasts, Votre Coach Web et Kilomètre 42, où c'est un conseil que je donne tout le temps, c'est ne pas oublier. Et là, vous l'avez peut-être découvert, mais on fera un sujet sur là-dessus. Genre, pourquoi je cours, qui est un sujet intéressant. Mais on pourrait faire un sujet, et je l'ai prévu, sur la course et la créativité. Ça fait partie des sujets que je veux aborder. Et j'ai en tête une invitée pour le faire. Donc je vais lui envoyer l'invitation. Et on en parlera très prochainement de ça, parce que je pense que c'est un sujet qui est passionnant. Voilà. À ce moment-là, donc, j'ai couru 26 minutes, ou presque, un peu moins de 4 km. Ouais, je suis sur mon rythme, qui est un peu plus rapide que celui que je pensais. Donc je vais ralentir tranquillement. Et c'est marrant, il y a une voiture qui m'a doublé. Alors je sais pas si vous l'entendez dans l'enregistrement, mais il m'a regardé vraiment bizarrement. Je veux dire, quel est ce gars qui court à 7h15 en parlant sur le bord de la route comme ça? Je me dis que il y avait quand même des gens pour qui courir, ça semble un truc extraordinaire. Alors que pour nous, ça devient un truc qui devient petit à petit de plus en plus ordinaire, mais qui fut extraordinaire aussi à une époque. Moi je me rappelle que quand je voyais des gens courir, je me disais mais qu'est-ce qu'ils courent, pourquoi ils courent, pourquoi ils font ça? Et que maintenant, bah, y a d'autres gens qui passent à côté de moi et qui se posent exactement la même question à propos de moi. Voilà. Alors, ça c'était le sujet endurance mentale. Maintenant, les petites nouvelles de l'été. Parce que ça fait partie du deuxième sujet. La première nouvelle, c'est que je vais lancer une nouvelle expérimentation de courir sans musique, sans podcast, sans livre audio pendant quelques temps. Alors, je suis un peu forcé par les choses. J'ai mon fidèle casque audio, dont j'ai perdu le nom, mais c'est le troisième que je grille. Enfin, j'avais deux M-Po que j'avais acheté sur Amazon. Et puis là, c'est un casque qui a tenu un peu plus longtemps, d'une meilleure qualité, qui m'accompagnait sur plusieurs centaines de kilomètres. Et donc l'autre jour, j'étais sur les chemins, et il s'est mis à grésiller. Alors, ça m'a embêté sur le coup, parce que j'étais en train d'écouter un podcast d'extraterriens. C'était super intéressant. Et donc, j'ai à peine eu le temps de finir d'écouter le podcast, que tout d'un coup, il s'est mis en carafe, sans faire les bips, disant qu'il n'avait plus de batterie, comme c'est un écouteur, c'est un casque Bluetooth. Et donc, j'ai essayé de le recharger. Et donc, comme ça faisait quelques jours, enfin, il avait bien grésillé, il n'a pas voulu repartir, il ne va pas repartir. Donc officiellement, je n'ai plus de casque audio. Alors il me reste mes AirPods, mais moi je peux pas courir des AirPods parce qu'ils tombent toujours de mes oreilles. Et ben le casque, qu'elle soit filaire ou sans fil d'Apple, tombe toujours de mes oreilles. Je vais pas revoir pour mettre des petites mousses, des petites choses comme ça. Et puis ça m'embêterait de les perdre, parce que sur un trail, les faire tomber, ce serait pas top. Et dans tous les cas, en course, je cours sans musique. J'avais juste pris mes écouteurs pour le marathon de Paris, pour passer le fameux mur. J'ai mis ma playlist. Mais normalement, je cours sans musique pendant les courses. Et donc, j'ai décidé que puisque mon casque m'a lâché, c'était un signe du destin, j'allais aussi courir à l'entraînement. Or, c'est le cas en club, hein, ou en club, un coureur sans musique, sans rien. Mais j'ai décidé que je vais les courir aussi les entraînements sans musique, sans podcast et sans livre pour voir un petit peu ce qu'il en était. Alors c'est une décision que j'ai déjà prise par le passé, que je n'ai pas tenue par le passé, pour une raison toute bête, c'est qu'il y a des jours où j'étais un peu flemmard et qu'il y avait mon casque qui était sur le bureau, et comment de partir, je me suis dit, oh, tu vas quand même bien écouter un podcast, ça passera le temps, etc. Mais en fait, une réflexion qui m'est venue l'autre jour, c'est que mon casque s'est arrêté quand même en pleine montagne, enfin sur mes chemins, attention en montagne, hein, petite colline quoi, et que d'un coup, m'est apparu quelque chose d'important, c'était le bruit de la nature autour de moi. Et j'ai parcouru environ 10 km et j'ai pas fait attention à certains bruits, certains oiseaux, des bruits de sol, etc. Enfin oui, tout un tas de choses comme ça. Et tout d'un coup, pour finir mes 7 derniers kilomètres, je me suis rendu compte, tout simplement, et ben que tous ces bruits étaient là, et que finalement, je m'étais coupé d'eux de manière totalement involontaire, et que donc je perdais une partie du spectacle. Mais que l'autre truc, l'autre défaut de ça, c'est que je m'étais coupé de moi-même. Et tout d'un coup, je me suis mis à entendre un truc que j'entendais plus. Bonjour, je viens de croiser un coureur, d'où le bonjour, vous voyez, à cette heure-là. Je peux croiser grand monde pour l'instant. Alors, si je laisse passer une voiture, que tout d'un coup, j'ai entendu un truc intéressant, c'est le bruit de mes pas. Ah, le bruit des pas. Si vous mettez un endroit où les gens courent et que vous écoutez un petit peu les gens courir, fermez les yeux. Mettez-vous un endroit où les gens courent, mettez-vous sur un banc. Écoutez le bruit des coureurs. Et vous allez constater que il y a des gens qui font vraiment pas beaucoup de bruit. Il y a des gens qui font vraiment beaucoup de bruit. Alors, on dit, dans la littérature minimaliste, dans la littérature de la foulée naturelle, qu'il faudrait courir en faisant le moins de bruit, en étant le plus léger. C'est ce qui apporte le plus d'amorti. Et c'est vrai que si vous courez avec de la musique, c'est un bruit que vous n'entendez plus. De même que vous n'entendez plus la bruit, votre saccade. Par exemple, vous savez que quand j'ai fait ma périostite, l'objectif qui m'était donné, c'était de courir à 180 pas par minute, d'essayer de m'en rapprocher, je courais avec un métronome. Et donc le métronome, il fait tac 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 tac. Et puis j'ai arrêté de courir avec le métronome et j'ai remis de la musique. Et je me rends compte que souvent, je ne suis pas sur la fréquence. Mais c'est normal que je ne sois pas sur la fréquence puisque je ne m'entends pas courir. Et donc le constat de ma fréquence de pas, tout simplement, parfois je me rends compte, je me dis, ah tiens là, tu cours peut-être avec des fréquences un peu plus basses. Ou alors, c'est une fois arrivé à la maison, quand je regarde sur mon téléphone ce que me raconte mon cardio, où il me dit, là mon gars, t'as couru qu'à 160, ou même une fois à 150 et quelques, en moyenne sur la séance, avec certes des moments où j'ai fait attention, où j'étais à 100, presque 180, des moments où j'étais plus élevé sur la vitesse, mais des moments où j'en étais vraiment très loin. Et donc, l'idée de courir sans musique, c'est aussi, tout simplement, d'écouter ma fréquence de pas, d'écouter le bruit que je fais en courant, et pas seulement d'écouter la nature. Et puis en même temps, je me dis que sur un autre avantage, c'est que se mettre à l'écoute de mon corps va m'aider justement dans ce travail d'endurance mentale. De même que ça évite qu'on se mette à courir au rythme de la musique ou au rythme du podcast. J'ai déjà fait l'expérience, par exemple, des podcasts qui ont une musique de début entraînante ont une tendance à me faire accélérer. Des podcasts dont la voix est un peu monotone, qui parle tout doucement, ont une tendance. Alors je les accélère, je les écoute en 1x3, 1x4, mais après ça parle un peu vite, donc j'ai tendance soit à ralentir, soit à accélérer. Mais en tout cas, me caler sur une vitesse qui n'est pas la mienne, mais qui est la vitesse de mon partenaire d'entraînement. Et c'est ce que je cherche justement à éviter. Le fait de courir tout seul fait que je peux courir à ma propre vitesse, à condition que je me mette à l'écoute de ma propre vitesse. Donc, j'ai pris la décision de courir sans musique, sans livre audio, sans podcast. Alors, on verra combien de temps ça tient. Pour l'instant, on va faire ça en guise d'éducatif, on va dire. Parce que quand les distances vont augmenter, quand le temps d'entraînement va augmenter, pour préparer par exemple le prochain marathon, auquel je suis déjà inscrit, puisque c'était le marathon d'Albi, et que les 200 ont été reportés, pour préparer le semi-marathon de Feur, qui a été reprogrammé, et qui pour l'instant me semble maintenu, 1er novembre, ben j'aurai des sorties longues. On verra le temps d'entraînement que ça fait, et combien de temps ça fait, parce que c'est vrai que c'est un temps aussi que j'utilise beaucoup pour apprendre des choses. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Mais pour l'instant, c'est ma décision, donc je donnerai un petit peu l'esprit de dire est-ce que oui ou non je tiens ou pas cette bonne résolution, on va dire. Et si c'est une résolution de nouvel an et de rentrée, enfin plutôt de rentrée, mais les résolutions de rentrée, nouvel an, c'est la même chose. On les a au début quand on rentre de vacances, et puis on les oublie vite. C'est pour ça que je prends pas de résolution. Ou en tout cas, je la prends pas en disant le 1er septembre, j'arrête de courir sans musique. Et que là, je profite vraiment du fait que casque qui tombe en panne égale un signe que je dois essayer de courir sans musique et sans audio. Alors, si vous posez une question sur mon rythme, ça fait 36 minutes et 5 km 54 de course pour l'instant. On est pas mal, à la cool. Il commence à faire un peu plus chaud, mais moi, j'aime bien le temps chaud. Et aussi, c'est pour ça que je pars courir tôt. Mais si je m'attends, je suis parti un petit quart d'heure trop tard par rapport à mes prévisions. Mais franchement, rien de bien gênant. En tout cas, par rapport à la chaleur et par rapport au lever du soleil, qui est beaucoup plus tard qu'avant déjà, puisqu'on est déjà quand même dans la deuxième partie d'août, et qu'on a perdu pas mal de temps de luminosité le soir, mais aussi le matin. Et quand on y regarde un petit peu, on pourrait dire qu'on a perdu par rapport à juin, peut-être une heure le matin, une heure le soir. Et vous devez le ressentir sur votre séance d'entraînement. Vous ne pouvez pas partir aussi tôt et aussi tard. Ou alors vous êtes obligé des fois de reprendre la frontale si vous voulez partir plus tôt ou aussitôt que vous voulez faire au mois de juin. Donc la partie... Je ralentis un petit peu, mais je regarde mon cardio, je suis à 109, vous voyez. Là, je suis pas mal. C'est redescendu. À la cool. La vitesse va descendre aussi. Mais le but du jeu, en fait, c'est de tenir. Alors, je sais pas si je ferai un podcast d'une heure aujourd'hui. Bien que j'ai les sujets, on verra combien de temps je tiens. Mais en tout cas, ma séance de course, elle est prévue sur une heure. Ça, c'était donc le sujet sur mon casque. Si vous avez des expériences là-dessus, ça m'intéresse. Est-ce que vous courez en musique, sans musique? Répondez-moi, venez en discuter dans le Hamster Zoning Club. Ça fait toujours partie, je pense, des sujets qui sont un peu clivants. Et vous savez notamment que on disait que la fédération, même elle l'a interdit, les fédérations nationales, internationales, interdisent la musique en compétition, considérant que c'est du dopant. Des études ont été faites là-dessus. Des vainqueurs de marathon ont été disqualifiés parce qu'ils avaient écouté de la musique en courant. Mais que le meilleur du monde court sans musique. Bon, après, il sera intéressant de savoir s'il pourrait courir encore plus vite avec de la musique ou si finalement ils sont pas dans un état de telle concentration que la musique ne changerait pas grand chose chez eux et que pour nous, la musique serait plutôt un dérivatif de l'esprit qui nous éloigne de la course et de la concentration sur notre geste, notre souffle et notre fréquence, tant cardiaque que de pas, et donc nous éloigne de nous-mêmes. Et donc peut-être, c'est ce que je verrai, c'est peut-être plutôt un bon exercice, en tout cas pour moi. Ensuite, voilà, bientôt 6 km. Donc à ce passage du 6e kilomètre, je vais vous donner deux petites news, on va dire santé. Vous avez vu que j'ai arrêté de faire mon défi de courir tous les jours. Alors pas l'épisode de la semaine dernière, mais l'épisode il y a 15 jours, j'ai dit ben, tant que je peux courir tous les jours, je le ferai. Et en fait, j'ai arrêté de le faire tout simplement parce que je suis allé voir mon ostéo, et que l'ostéo, bah, comme il le fait à chaque fois, hein, c'est connu, il dit il faut pas courir dans les 2 jours qui suivent, 2-3 jours qui suivent, il m'a bien répété. Sauf que là en fait, alors il m'a tout remis d'aplomb. C'est drôle en fait parce que à chaque fois il me fait le même coup. Celui-là je vais le voir une fois par an en fait. C'est un ostéo spécialisé dans le sport qui a suivi des équipes sportives, etc. Et donc quand je viens le voir, le truc il me dit pourquoi vous venez, quel est votre problème. Alors, je vous dis, c'est une sorte de vérification, quoi. Vous vérifiez, j'ai couru tant de kilomètres, j'ai fait ça. Regardez ce qu'il faut mettre d'aplomb. Alors, le premier truc qu'il fait, toujours, c'est de me faire baisser pour rattraper mes pieds. Alors, il vérifie la souplesse. Et en fait, à chaque fois, il constate la même chose. Et chaque ostéo que j'ai vu a constaté la même chose. C'est que j'ai toujours le bassin bloqué d'un côté. Donc, j'ai une espèce de décalage qui se fait. Car, qui m'ont pas expliqué, hein, j'en connais pas la cause. Mais qui est... En fait, j'ai le bassin. C'est toujours à droite, je crois. Oui, toujours à droite. Donc, il y a moins de mouvement d'un côté que de l'autre. En fait, je suis toujours un peu bloqué. Et donc, comme l'an dernier, eh ben, il a fait un travail pour débloquer, remettre dans l'axe. Et là, quand je parle de remettre dans l'axe, en fait, il a remis dans l'axe à la fois le bassin, mais aussi la jambe. Parce que j'avais une petite douleur au genou. Alors il a regardé un petit peu, effectivement, j'avais... Alors je peux pas vous expliquer physiquement comment ça se passe, mais on va dire que j'avais... Il m'avait expliqué que j'avais le tibia qui avait un peu glissé dans un sens, c'est un peu tordu. Et il m'a dit ça vient du trail, notamment des descentes en trail. Et si vous faites du trail, vous avez peut-être remarqué que vous avez peut-être tendance à descendre avec les pattes en pied de canard. Donc les pointes vers l'extérieur, talon vers l'intérieur, pointe vers l'extérieur. Et donc avec la pression, la descente, etc., c'est une tendance en fait à faire tourner un petit peu les axes. Et donc, mais ça c'est une question aussi que j'ai eu souvent, et donc je réponds une autre fois, c'est que souvent les douleurs aux genoux que l'on a, elles viennent en fait... que le genou essaye de récupérer des choses. Et donc dans mon cas, en fait, qu'est-ce qui se passait? Il essaye de récupérer à la fois ce glissement au niveau du tibia, ce blocage au niveau du bassin, et donc forcément le genou dans une jambe, vous avez le pied, la cheville, les mollets, le genou, la cuisse, et puis ensuite ça remonte jusqu'au bassin, et ben c'est un des axes de torsion, quoi, tout simplement. C'est là où il va adapter. Le genou, il peut partir sur la droite, sur la gauche, pour essayer de compenser les déséquilibres qu'il pourrait y avoir d'un côté ou de l'autre. Et donc c'est mon genou qui compensait un petit peu. Pas un truc très gênant, mais il m'a dit c'est normal que ça puisse un peu frotter sur un tendon, que je puisse sentir des fois certaines petites gênes. Or franchement, qui est vraiment pas gênante. Mais il m'a dit voilà, que c'était bien de remettre droit, faire beaucoup d'assouplissement, de faire beaucoup de... alors après la séance, il fallait que je fasse encore plus d'assouplissement, de boire, etc. Alors ça me conforte dans mon yoga. Ça fait là 1 an maintenant que je fais du yoga tous les jours. J'en vois vraiment les bénéfices sur ma souplesse. Il y a des trucs que je faisais pas. Enfin, ce fameux toucher de pied là par exemple, que je faisais pas. Et puis je me suis aussi rendu compte que ma syphose... Alors elle est encore un petit peu marquée, mais elle est moins marquée que l'an dernier. Alors là, je crois que j'en avais parlé dans un épisode de l'an dernier. Une syphose, je crois que vous avez lordose, qui est l'inverse. La syphose, en fait, c'est un mouvement naturel de la colonne vertébrale qui fait que vous penchez un petit peu vers l'avant. Et puis vous avez ceux qui sont inversés, qui auraient plutôt une tendance à avoir les lombaires creusés, je crois. Bon, là, il faut parler de ça, Major Mouvement qui a fait une vidéo sur le sujet. Mais en fait, j'en ai parlé avec mon médecin généraliste qui m'a dit « Oui, mais votre syphose est tout à fait normale. » Il m'a dit « On va pas travailler dessus. » L'ostéo m'avait dit que le coureur, en fait, on a une tendance à avoir une syphose. On penchait vers l'avant, qui est toujours un peu plus forte, parce qu'on a tendance à regarder les pieds. On m'avait donné des exercices, des élastiques. En fait, faudrait faire du rameur, quoi. Grosso modo. Donc j'ai fait pas mal d'exercices cette année là-dessus. Et il a quand même constaté que ma siphoise était encore un peu marquée, mais pas tant que ça. Ce qui montrerait aussi que j'ai tendance à courir probablement plus redressé, regarder plus droit devant moi. Ce qui en soi, pour moi, est pas mal. Ça permet de voir plus de paysages plutôt que de regarder ses pieds. Quand même le gros avantage de la course à pied, soyons honnêtes. Puis j'ai une tendance aussi à penser que sur l'ouverture de la cage thoracique, de la respiration, on est quand même beaucoup mieux. Alors si vous entendez un bruit, c'est un monsieur qui passe en vélo, qui fait des bruits quand il pédale, il fait des ânements, mais c'est un monsieur qui, je pense, avoir pas loin de 80 ans. Et je me dis, si je fais du vélo tous les matins comme il fait lui, à 80 verges, et bon, finalement mes efforts de santé auront été payants. Alors, j'en suis à 7 km, vous voyez, 45 minutes. On continue tranquillement. Donc l'ostéo m'a remis droit là-dessus. Et puis il m'a détecté un petit syndrome rotulien. Il m'a dit, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus, c'est l'usure du sportif. Moi j'ai fait du foot dans ma jeunesse, du tennis, un peu de VTT. J'ai arrêté pendant 20 ans. Je cours pendant depuis quelques années, 3-4 ans, vraiment. On ne peut pas dire mes articulations et 35 ans d'exercice physique. Hein. Mais avec le poids, etc. Bon, l'usure, tout ça. Il m'a dit en fait, il faut faire quelques exercices pour renforcer le genou. Ce que je faisais déjà pas mal. J'ai fait des vidéos sur le sujet. Mais il m'a donné un exercice complémentaire à faire avec des bandes. Donc c'est ce qu'il y a, c'est drôle en fait, que à chaque fois que je vais le voir, il me rajoute une dose d'exercice. Donc la dernière fois, c'était de faire des trucs pour ma siphoise, avec des mouvements de rameur, qui vont bien renforcer le haut du corps, si je rajoute les pompes, etc. C'était vraiment très bénéfique. Et donc là, il m'a rajouté une petite dose d'élastique, d'écarter les jambes, avec un élastique entre les jambes, pour renforcer la partie du genou. En fait, comme je le disais, l'importance de faire des fentes, des squats, tout ça, c'est qu'on renforce les mollets, il faut renforcer le pied, les mollets, qui jouent un rôle très important, il faut renforcer la cuisse, et que quand vous renforcez tout ça musculairement, bien entendu, et bien ça va aider aussi les articulations, le genou, à supporter la répétition des poids, de votre poids qui va venir à chaque fois que vous courez. Si vous courez un marathon, vous allez peut-être poser le pied 21 000 fois de chaque côté. Donc autant le poser léger, pour revenir à ce que je disais avant. Et la fréquence, le fait de faire de la haute fréquence, permet de le poser plus légèrement plutôt que d'avoir des gros appuis. Parce que la conséquence de ma fréquence un peu basse que j'avais, c'était que j'ai une tendance donc à talonner. Et si vous rappelez l'épisode avec Sherwin, d'Altra, c'est ce qu'on avait dit. C'est que si vous talonnez déjà, vous importez beaucoup de force, va taper sur le talon. Alors, pour ça qu'ils font beaucoup d'amortis sur les chaussures. Mais en plus, vous allez vous freiner. Donc, il est plutôt intéressant de venir sur une foulée naturelle, qui est plutôt médio-pied, avant-pied. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant, parce que une fréquence un peu plus élevée vous amène à faire des pas plus petits. Évitez de poser le pied plus vers l'avant, très loin vers l'avant. Et donc, vous n'allez pas talonner puisque votre pied va venir se poser plus sous votre corps. Bon. Donc, il m'a mis à l'arrêt pendant 2-3 jours. Et derrière, je me suis dit, maintenant que ma série est terminée, je ne vais pas reprendre la même série, exactement la même. Et donc, j'ai entamé une nouvelle série qui n'est pas tout à fait quotidienne, mais qui est pas très loin quand même du quotidien, qui m'amène en fait à la préparation de mon futur objectif. Mais de ça, je vous en parlerai juste après. Car si j'ai rompu ma série, et je l'ai rompu notamment hier, à nouveau, C'est parce que j'ai testé un nouveau truc. Un petit cadeau de ma femme. Il m'a offert une séance de cryothérapie. Ce que je n'avais jamais fait. Alors la cryothérapie, on entend plein de gens parler. Des bénéfices. On voit les sportifs l'utiliser, se plonger. Alors bien sûr dans les bassines d'eau froide, etc. avec des glaçons. Mais la cryothérapie, vous savez, c'est le refroidissement, c'est des grands tubes. Un grand tube dans lequel vous rentrez presque entier par la tête. On vous met des grosses chaussettes, des gants, et puis il y a de l'azote qui descend à moins 160, ou je sais pas combien. Et donc vous passez entre 1 minute et 3 minutes, 1 minute 30 et 3 minutes. Alors elle m'a dit hier que il fallait passer 1 minute 30 minimum pour que ce soit bénéfique, et que le maximum c'était 3 minutes. Moi j'ai fait 3 minutes, à ma grande surprise, sans grand problème. Comme j'ai dit à ma femme, il est parfois plus difficile de rentrer dans une piscine d'eau un peu fraîche que de rester 3 minutes là-dedans. Enfin, c'est mon sentiment. Après, j'y reste pas une heure, quoi. Si je devais rester une heure là-dedans, je pense que j'aurais un sentiment tout à fait différent. Mais en tout cas, la sensation de froid qui saisit quand on rentre dedans n'est pas du tout la même. D'autant plus qu'en fait, quand vous rentrez dans le tube, si vous en avez jamais fait, il n'y a pas de gaz, et que la machine se met en route, qu'il y a du gaz qui tourne, qui sort, fait tourner sur vous-même pour que le froid s'applique sur tout votre corps. Donc finalement, vous gardez un petit peu de mouvement, même si c'est tourné sur soi-même pendant 3 minutes, on ne peut pas placer que ça fasse beaucoup de pas. Hein. Mais en tout cas, c'est pas un froid tout de suite vif, ça monte petit à petit. Enfin, ça descend petit à petit. Question de point de vue et de sémantique. Donc, j'ai fait ça. Et donc, j'avais dit que je ferais un petit peu de repos aussi. J'ai fait juste mon yoga, mes pompes, etc. avant. Je pouvais faire du sport l'après-midi. Parce que je l'ai fait en fin de matinée. Mais j'ai préféré faire une bonne journée de repos. En me disant que maintenant, j'allais attaquer une phase de préparation qui m'amène à mon objectif. Alors, phase de préparation qui est déjà commencée. Si vous me suivez sur Instagram, @BertrandSoulier, vous en avez connaissance. J'en ai parlé. Si vous me suivez sur Strava, vous êtes rendu compte que je faisais des détours par la piscine de plus en plus souvent. J'ai même profité des vacances à la mer pour nager en eau libre. Parce que le nouveau défi, c'est d'aller courir et d'aller nager. Le but du jeu, c'est que je ne prépare pas un triathlon, parce que je suis toujours pas remonté sur mon vélo. Alors même si à une époque je faisais des centaines de kilomètres de vélo par semaine pour aller travailler, pour faire mes cours, etc. Là j'ai un bout de temps que je suis pas remonté sur mon vélo. Mais on s'est inscrit avec l'ami Armano, dont je vous recommande les podcasts, je vous mettrai les liens dans la description, mais notamment vous pouvez écouter dans les vestiaires ou les interroges. Puis vous savez, on l'avait aussi sur le podcast de Nakan. J'avais été invité une fois, notamment, on avait bien discuté. Et donc, un soir, comme ça, ou un jour, on discutait des projets, de ce qu'il voulait faire, des épreuves, des choses comme ça. Et moi, je disais que, parce que ça, c'est un truc que je vous ai pas dit, j'ai un nouveau coach depuis le mois de juillet. J'ai pris un coach pour travailler sur la partie physique, mais aussi mentale. Et donc, mon coach, en fait, il m'a dit, il faut trouver un gros objectif qui va te guider pendant les quelques années qui viennent pour savoir pourquoi tu vas courir et pourquoi tu fais tous ces efforts. Pour que dans les moments difficiles, tu saches pourquoi tu prépares ça et les ressorts mentaux pour préparer tout ça. Et donc, on discutait de ça avec Armano. Et puis, on a commencé à parler d'une discipline qui grimpe, qui s'appelle le swimrun. Et le swimrun, si vous ne connaissez pas, c'est courir, nager en alternance. C'est pas du triathlon ni un duathlon. Parce que duathlon en plus, c'est vélo et course, je crois. Enfin, où il doit y avoir que deux épreuves. Mais en fait, l'une derrière l'autre. Là, elles sont enchaînées. C'est on nage, on court, on nage, on court. Et le principe, en fait, alors, si vous avez vu ce reportage qui avait été fait, c'était un amateur sport sur la course d'Otilo en Norvège, qui est on va dire le championnat du monde de la discipline, quoi, grosso modo, aussi les inventeurs. C'était en fait comment ils passaient d'île en île pour aller d'un lieu à un autre, pour aller manger au restaurant, je crois, dans l'histoire de départ. C'était un pari. Ceux qui perdaient allaient au restaurant X îles plus loin en nageant et en courant par leurs propres moyens, plutôt d'y aller en voiture ou en bateau ou en je sais pas quoi. Et donc ils ont inventé une discipline où il faut courir et nager. Vous faites ça en autonomie, en équipe, avec attaché qu'une corde en partie. Et donc vous nagez avec les chaussures. Alors il y a droit à des aides, pool boy, plaquette. Je crois, oui, pool boy et plaquette. Ça compense le fait de nager avec des baskets. Et donc on s'est lancé là-dedans. Alors, ça sera notre premier. On n'a pas pris une grosse distance. Hein. On a fait quelque chose qui fait un équivalent de 11 km. 9 km de course. 2,6 km de nage. Alors moi dans ma tête j'avais lu 1,6 km de nage. Non, c'est 2,6. Avec des segments de nage qui vont faire par exemple 200 mètres, 400 mètres, 600 mètres. Je crois qu'il y a 1,2 km à un moment donné. Et donc, ça sera début septembre. Il y a un nocturne le 11. Et il y a l'équipe, enfin, il y a notre course en duo le 13. Donc, on s'est jamais vu encore. Donc, on découvrira ce que ça fait de courir ensemble. Alors là, ça me pose pas trop de problèmes. Et vous savez, Armano, je l'avais reçu sur l'épisode juste avant le marathon de Paris, il m'a donné ses derniers conseils. On a discuté de tout ça. Et j'ai fait le débriefing du marathon de Paris chez lui. Donc, théoriquement, il est beaucoup plus rapide que moi. Mais il m'attendra. Mais comme il préparait aussi du triathlon, c'est un triathlète, notre ami, et que sa visée, c'était de faire de la Ironman, eh ben, je lui ai dit qu'il allait aussi me tirer par la corde, parce que je me suis rendu compte qu'en natation, c'était pas encore tout à fait ça. En fait, ça fait... quand j'ai repris mes efforts sportifs, j'ai nagé en club une fois par semaine. J'avais beaucoup, beaucoup progressé, soyons honnêtes. Mais ça, c'était il y a 3 ans. Oui, il y a 3 ans. Et en fait, quand je me suis inscrit au club en course à pied, je peux pas faire 2 entraînements course à pied en semaine, plus natation. Ça faisait 3 soirs d'affilée en séparé. Enfin, d'affilée avec où j'étais pas à la maison, avec ma fille et tout à la maison, ça devient compliqué. Les emplois du temps, tout ça à gérer. Et ça faisait tout reporter aussi sur ma femme, donc c'était pas terrible. Donc la natation, c'était pas trop compatible, tout bout aligné. Et donc en fait, finalement, j'ai pas nagé depuis l'an dernier. Alors ce qui est normal, c'est que quand je me suis remis dans la piscine le premier jour, et je me suis dit, bon, tu vas faire un petit kilomètre pour voir comment ça se passe. Je suis arrivé au bout de ma ligne d'eau de 25 en me disant, oups, c'est pas gagné. Et là, ça me rappelle nos débuts en course à pied, aux uns et aux autres. Rappelez-vous l'épisode de Cécile Bertin, ce qu'elle disait sur la première fois qu'elle a couru. Dans le... Rappelez-vous ce qu'on a dit aussi avec Stéphane la semaine dernière. Sur les premiers mètres, les premières minutes de course. Moi, je me rappelle encore très bien quand j'ai insulté mon iPod avec de la musique, justement, quand j'essayais de courir sur la plage et que j'y arrivais pas. Et qui mettait une musique où je m'étais mis une petite playlist où il y a des trucs de relance, et j'ai fini par insulter mon iPod en disant que j'en ai marre de courir, alors que je courais de... j'ai regardé, j'avais pas fait 2 km, hein, ce jour-là, donc je risquais même pas de parler, j'étais déjà asphyxié au bout de ce temps-là, et une vitesse qui maintenant, me rendrai compte, était à l'époque très élevée pour moi, même si maintenant elle est inférieure à celle à laquelle je vous parle. Bref, c'était vraiment les premiers mètres là dans cette piscine, je me suis dit, dans quoi tu t'es embarqué? Bon, j'ai fait d'autres séances, petit à petit je travaille la glisse, je regarde des vidéos sur YouTube, c'est bien YouTube pour ça. Mon point faible, c'est mes jambes. Alors, comme certains aiment regarder mes mollets sur Insta, oui, j'ai des gros mollets, mais c'est pas des mollets de nageur, donc ça fait du poids. Alors, c'est un gros débat à la course. Il y a un gars au club disait, waouh, avec ces mollets-là, ça doit pousser fort dans les montées. Oui, ça pousse fort, mais ça fait du poids, faut trimballer. Et puis quand on nage, eh ben, c'est pas bon pour la flottaison. Alors là, je me rends compte quand même que tout mon travail de gainage, d'abdos, etc., a quand même bien porté ses fruits. Parce que je suis quand même beaucoup plus gainé dans l'eau que je l'étais même il y a 3 ans quand j'étais au club. Où là, je me rends compte quand même que ma flottaison globale est quand même meilleure. Je sais pas si on peut appeler ça une flottabilité. Ou en tout cas, elle est largement meilleure. Donc je coule moins. Mes jambes semblent être à peu près à la surface de l'eau. Alors bien sûr, avec les chaussures, ça va rajouter un truc. Et donc là, il y aurait des exercices à faire de test, natation en eau libre, avec mes chaussures. Je pense que je vais prendre mes trails, mes five fingers de trail, qui sont, c'est pas les plus légères du monde, hein, mais elles sont pas trop lourdes. L'eau s'évacue assez bien, parce que j'ai fait une course les pieds dans l'eau, donc j'ai pu tester. Je peux courir avec les pieds mouillés, parce que la course les pieds dans l'eau que j'avais faite, j'avais fait une vidéo l'an dernier, je crois qu'elle faisait 7 ou 8 km sans aucun souci, et c'est la distance que je vais faire en course à pied pour ce fameux swimrun. Donc ah oui, je le dis, c'est le swimrun des Gorges de la Loire vers Saint-Etienne. Si vous êtes dans le coin, si vous passez dans le coin, ou si vous allez faire un petit coucou. Donc là-dessus, pour courir en fait avec mes five fingers, j'arrive à courir jusqu'à 15. J'ai fait 16 ou 17 km, on va dire grosso modo avec l'entraînement. Donc faire les 9 km c'est pas un problème. Mais il faut que je vois ce qui se passe quand je me mets dans l'eau avec pour nager. Au niveau de flottaison, au niveau de sortie de l'eau, etc. Puis il faut que je teste un peu le pool boy. Voir ce que ça fait d'avoir pool boy. Est-ce que mon pool boy n'est pas trop petit? Juste un pool boy que j'avais pris. Vous voyez, 5 euros à Décathlon. Donc, qui est surtout pour. C'est, en plus, moi, ça m'aide beaucoup le pool boy, parce que comme les jambes ne travaillent pas et qu'elles sont portées, forcément, moi qui ai des jambes lourdes, j'ai toujours l'impression de nager beaucoup plus facilement avec pool boy que sans pool boy. Ce qui confirme que je nage plus avec les bras qu'avec les pieds. Et si vous mettez une planche entre les mains, vous vous rendrez même compte que souvent, en voulant avancer avec les pieds, je fais du reculon. Mais c'est ce que la chaîne YouTube Nageur 2.0 explique assez bien. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font pas travailler la propulsion, la vitesse, des choses comme ça. Et puis il faut que je travaille un autre truc aussi. C'est la capacité à nager tout simplement un kilomètre sans arrêt. Sans faire de pause ou une respiration légère, mais vous voyez, sans s'appuyer au mur. Ou sans faire des longues pauses au mur. Et donc là, ça, j'ai quand même pas mal progressé là-dessus. Il me reste encore un peu de progrès à faire, mais je suis pas loin de pouvoir les faire. Mon but du jeu, c'est d'arriver à faire 1 km 2, 1 km 3 sans pause du tout, qui correspondra à la distance de la course. Alors pour la course, il y aura une combinaison en plus. Donc on va dire que la flottabilité sera un peu améliorée par la combinaison. Donc je me dis que ce sera un petit bonus rassurant. Mais ça sera une nouvelle expérience. Je vous en ferai bien sûr un retour. Prévu de faire des petites vidéos, un épisode de podcast. Et c'est ce qui m'amène au sujet des invités. Dans les prochains épisodes, j'ai déjà créé des nouveaux invités. Et notamment, j'ai invité des personnes qui font du swimrun. Alors j'espère les avoir avant la participation à ce swimrun pour avoir un petit peu en notion de conseils, astuces, voir un petit peu comment, quels sont les conseils qu'ils donneraient à un débutant, eux qui sont plutôt des compétiteurs pour aller faire au tilo et qui en font quelques grosses courses dans l'année, qui sont vraiment des bons quoi dans le domaine. Donc ça sera vraiment de dire quels sont les conseils de champions pour des débutants dans le domaine. Donc j'espère faire ça début septembre. Si tout se passe bien la semaine prochaine, on parlera de trail et notamment du trail, de comment s'entraîner en trail en ville avec un invité. J'ai calé aussi, ou sans compte calage, mais j'ai eu l'accord d'une trailleuse qui a une philosophie de course qui me semble vraiment très sympathique. Donc à voir. J'ai aussi eu l'accord, on va caler ça, de gens qui font du triathlon, parce que puisque on court et puisque je nage, la question c'est de savoir qu'est-ce qui manque pour aller faire du triathlon. Pour ceux qui seraient tentés par faire du triathlon, parce qu'il y en a entre vous, enfin d'entre vous qui font du triathlon, qui ont fait du triathlon, qui voudraient faire du triathlon, et ben comment c'est complémentaire, comment on peut combiner les entraînements, est-ce que c'est compliqué de passer de l'un à l'autre, est-ce qu'un bon coureur peut se dire qu'en courant vite il va être pas trop mauvais en triathlon, même s'il nage pas très bien. Et là je pense à quelqu'un comme Jalabert qui sort très loin de l'eau mais qui rattrape tout le monde en vélo et qui maintient une très très bonne vitesse sur course à pied. Bon là il était, c'est l'ancien grand champion quoi, donc il reste un champion quand il fait d'autres disciplines et donc il a une approche physique différente, mais c'est une stratégie qui fonctionne. Donc on parlera de tout ça. Et puis des derniers ravitaux dans lesquels je vais vous inviter, vous les uns les autres, à parler de vos expériences de course, comment vous vivez la course, comment vous entraînez. Les derniers ravitaux, c'est vraiment le principe de la petite boisson de récup à la fin d'une séance, à la fin d'une course, à la fin d'un trail. Alors comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comment t'as couru? Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Toutes ces notions-là, là, le faire ensemble. Et donc de discuter comme ça. Discuter aussi un peu des objectifs, de prendre les conseils des uns des autres. Parce que finalement, l'un des plus gros sources de progrès que peut en avoir, c'est de voir ce que font les uns les autres. Et de voir que finalement, nous, on a des barrières limitantes dans notre tête, auto-limitantes. Mais que les autres en face, ils les ont. Ils n'ont pas eu, ils ont fait des trucs qui nous semblent, nous, impossibles. Et on se rend compte que s'ils l'ont fait, pourquoi pas nous? Et là, je vous renvoie sur le dernier épisode avec Stéphane, qui s'est fait d'ultra trail après 4 ans de course à pied, qui vise la diagonale des fous. Et là, je me dis, ça me semble impossible. Et le problème, c'est que depuis que j'ai discuté avec lui, ben, je me dis que c'est peut-être pas tant impossible que ça. Et que d'allonger la distance commence à me démanger. Donc, pour l'instant, je reste encore sur des distances un peu plus courtes. Et on verra au fil des années. Peut-être que mon défi futur sera d'aller sur des plus grosses courses et plus grandes distances. Surtout que j'aimerais bien faire voyager ma petite famille. Et je me dis que de les amener dans des endroits sympathiques pour participer à des courses, bah, ça fait justement partie de mon fameux projet de vie sportive. De vivre du sport, vivre avec le sport, vivre grâce au sport, vivre dans le sport. De plein de manières différentes que je suis en train d'imaginer et que vous me permettez de faire par vos soutiens, par vos partages, par vos petites notes 5 étoiles sur Apple Podcast, par vos commentaires, vos questions, par Patreon, par les dons et puis par plein de choses qui vont se mettre petit à petit en place et dont on va reparler très bientôt. Mais maintenant, il est temps pour moi de vous dire souhaitez à tous une belle journée, une belle fin de journée. J'ai fini ma séance et donc j'ai couru 1h08, 10 km 5. C'était une bonne petite séance, vous voyez. Donc je suis en dessous de 10 km/h, hein, je suis à 9 km/h, sans aucune pause, sans arrêt, à la cool, tranquillement. Je pourrais partir pour 1 heure de plus, mais je suis pas sûr d'avoir de quoi vous parler pour 1 heure de plus. Donc on va arrêter cet épisode ici pour l'instant. Je vous souhaite à tous donc une très très belle journée. Merci pour votre écoute. Merci encore une fois pour vos notes. Merci d'avoir suivi cette expérimentation jusqu'au bout. C'était très sympa comme ça de pouvoir discuter. Dites-moi si ça vous plaît comme concept. On pourra recommencer. Je me dis même que c'est pas impossible d'ailleurs que des derniers ravitaux ont pu se transformer en course comme ça, c'est-à-dire qu'avec des coureurs dans mon coin, leur dire, bah tiens, on va faire un épisode de podcast en courant tous les deux. Alors c'est moi qui ferai la vitesse parce que les gens que j'ai en tête, ils courent un peu plus vite que moi. mais on pourrait faire des épisodes dernier ravito, où il n'y aurait pas que le dernier ravito, mais aussi la course, il y aurait aussi les choses comme ça. Donc je vais voir un petit peu techniquement comment ça peut se faire, ce qui me semble, enfin qui n'est pas très compliqué pour moi. Je vais voir la qualité du son de cet épisode-là, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et si le concept vous intéresse, eh ben n'hésitez pas à me faire un petit signe. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle fin de journée, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien, comme on pourrait dire, pour un espèce de jeu de mots sportif. Courez bien, bougez bien, mangez bien, reposez-vous bien. Je vous rappelle les vertus, les bénéfices de l'entraînement invisible. Merci encore à tous pour votre soutien et à la semaine prochaine. Ciao, ciao les sportifs!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.